Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Les Nouveaux Chemins.
And so, my fellow Americans, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country.
Les Nouveaux Chemins vous accompagnent du lundi au vendredi de 10h à 10h53 en direct et à toute heure du jour et de la nuit en téléchargement. Chaque semaine, nous vous proposons un thème que nous arpentons en empruntant les sentiers de la philosophie, du cinéma et de la littérature. Et chaque jour, à 10h50, vous retrouvez les 2 minutes papillons de Géraldine Mosna-Savoie pour une plongée dans l'actualité éditoriale philosophique. Continuer cette semaine américaine ou comment les États-Unis d'Amérique sont vus et pensés par les philosophes. Après Tocqueville hier et avant la French Theory demain, j'ai le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui Sandra Logier, professeure de philosophie à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, qui vient se demander et retracer pour vous la naissance de la philosophie américaine en se demandant si l'idée même d'un nouveau départ en philosophie a un sens. Bonjour à vous Sandra Logier.
Bonjour.
Permettez-moi de vous saluer à l'aube de cette nouvelle année universitaire. Notre anniversaire est placé sous le signe de l'espoir et peut-être de manière insuffisante sous celui du travail. Il n'est pas question ici de nous rencontrer pour rivaliser en des joutes de force ou d'adresse, pour raconter des chroniques historiques, pour réciter des tragédies grecques ou des odes à l'instar des Grecs anciens. Nous ne nous retrouvons pas davantage pour tenir des cours d'amour ou de poésie comme les troubadours, ni pour œuvrer à l'avancement des sciences comme nos contemporains peuvent le faire à Londres ou dans les autres capitales européennes. Notre période de dépendance et notre long apprentissage de l'érudition des autres pays touchent à leur fin. Cela fait trop longtemps que nous écoutons les muses courtisanes de l'Europe. C'est sur nos propres pieds que nous allons marcher. C'est avec nos propres mains que nous allons travailler. Ce sont nos propres opinions que nous allons clamer. Pour la première fois, une nation d'hommes va exister, parce que chacun se sait inspiré par l'âme divine qui inspire aussi tous les autres hommes. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Ooh, and I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Sandra Logier, les lignes que je viens de lire sont tirées d'un texte, d'une intervention que le philosophe Ralph Waldo Emerson a prononcée à Harvard en août 1837 devant la société Phi Beta Kappa. Il salue ses étudiants et il lance ce que l'on considère aujourd'hui comme étant le premier appel à l'indépendance intellectuelle des États-Unis. Est-ce que ça veut dire qu'avant cet appel-là, il n'y avait pas de philosophie ni même de culture américaine ?
C'est vrai que c'est une déclaration d'indépendance, hein, c'est un 4 juillet de la philosophie, et c'est vraiment l'affirmation pour le penseur américain. Alors c'est le mot scholar, hein,
The American Scholar, c'est le titre.
Donc comment traduire ça? Est-ce que c'est intellectuel? Est-ce que c'est savant? Est-ce que c'est étudiant? Justement, c'est tout ça à la fois. Et la question que pose Emerson en ce jour à ses étudiants, c'est en effet comment est-ce qu'on peut être un intellectuel, un penseur américain sur une terre nouvelle où tout est à recommencer et où effectivement on a un héritage extrêmement lourd qui est celui de la culture, de toute la culture, de la connaissance européenne, mais où il faut arriver à construire sa propre pensée, à trouver sa voie et à recommencer. À recommencer parce que il faut, comme il le dit très bien, hein, et c'est avec ce mélange, disons, d'emphase parfois ridicule et aussi d'élan démocratique absolument fondamental et excitant, ce qu'il va dire, c'est qu'il faut, pour inventer cette nouvelle philosophie américaine, il faut recommencer à penser, recommencer comme on recommence la démocratie sur cette terre nouvelle, et essayer de penser par soi-même et à partir de ces objets de la vie ordinaire, plutôt que les grandes traditions.
C'est ça, il veut prendre le contre-pied du romantisme qui a cours en Europe à ce moment-là. Et donc justement, il montre bien que là-bas, c'est le romantisme, le sublime, le grandiose. Pourquoi pas, dit-il à ses étudiants, regarder ce qu'il y a devant nos pieds, hein, ce qu'il y a de plus familier, ce qu'il y a de plus ordinaire, pour proposer une nouvelle pensée. Mais ce geste-là pose la question de la place de l'héritage même en philosophie. Parce que finalement, vouloir recommencer la philosophie, on pourrait y entendre une espèce de volonté de faire table rase du passé et de fonder quelque chose de complètement nouveau. Ce n'est jamais vraiment possible.
Alors, on ne recommence jamais à zéro, hein, c'est ça l'idée de recommencer. Comme le dit Emerson, hein, dans ce texte, il veut renoncer à ce qui est grand, le romantique, tout ce qui est considéré comme sublime, la majesté européenne, et revenir à ce qui est devant ses yeux, à ses pieds. Donc il y a d'abord une volonté vraiment de renversement, hein, des hiérarchies qui est assez propre quand même à la philosophie, et il y a aussi cette idée de recommencer, alors non pas en revenant à zéro, donc l'idée de la table rase pour lui elle est assez illusoire, mais plutôt en rejetant le passé par une rupture, hein, par une rupture qui est une forme de mouvement sceptique aussi, une rupture qui va permettre donc de se redécouvrir, hein, de redécouvrir sa propre pensée, sa propre parole. Et c'est vraiment le mouvement que l'on trouve aussi au XXe siècle, hein, siècle après, dans le cinéma américain et les comédies du remariage, qui sont des œuvres cinématographiques construites aussi sur une rupture et un recommencement. Donc cette idée, en fait, du recommencement, qui est aussi toujours celle de la seconde chance, hein, donc c'est pour ça que c'est pas une table rase, il n'y a pas de seconde chance s'il n'y a pas eu un premier moment. Seconde chance pour la démocratie, seconde chance pour l'humain, et seconde chance aussi pour la philosophie de revenir à quelque chose qui lui est propre, qui lui est natif, comme il le dit.
C'est ça, la question n'est pas d'essayer de voir comment faire, comment agir ou penser de manière complètement différente, mais comment s'inscrire dans un sillage qui est tracé avant nous et de proposer quelque chose de légèrement différent. Vous avez fait référence aux comédies de remariage, c'est bien ça le lien entre Emerson et les comédies de remariage du XXe siècle, ce qui peut paraître un peu surprenant, c'est que dans les comédies de remariage, ce sont deux personnes qui se séparent au début du film et qui vont se remettre ensemble, c'est-à-dire vont retrouver la situation initiale, mais légèrement différente. C'est plus un pas de côté, c'est très subtil, hein, finalement, ce qui fait que les choses ne sont pas comme avant.
Oui, et c'est vraiment ça aussi qui importe, hein, en philosophie pour Emerson, pour Cavell et aussi pour ces films, hein, qui sont philosophiques aussi, c'est justement de voir les différences, hein, d'arriver à percevoir en quoi, en effet, si on recommence, c'est pas tout à fait la même chose, ou alors c'est la même chose différemment. Et donc, recommencer cette philosophie en Amérique sur ce sol nouveau, ça va être, en effet, forcément un peu la même chose, puisqu'on a les mêmes mots, le langage, il vient de l'Europe, les concepts, la pensée aussi, mais on recommence autrement du fait d'être justement sur ce sol nouveau.
On pointait hier avec Jean-Louis Benoît à l'occasion de l'émission sur Tocqueville les dangers d'un régime démocratique qui pouvait conduire à une médiocrisation, c'est pas très bon, hein, en fait, voilà, nivellement des esprits, ouais. C'est-à-dire que l'homme démocratique va, puisqu'il se soucie de l'égalité avant de se soucier de la liberté, ne va être stimulé par aucune injonction qui fait qu'il aura envie de dépasser les autres, de donner le meilleur de lui-même. Emerson est comme l'antidote à cela, puisqu'il propose avec un concept, ce qu'on appelle en français le non-conformisme, la possibilité pour l'homme, au contraire, de se hisser le plus haut possible vers une forme de perfection qui n'est jamais atteignable et qui lui permet de se prémunir contre les dangers de la démocratie. Ce concept de non-conformisme a donné lieu à beaucoup de malentendus. On l'associe à une espèce de recette de développement personnel. Je vous propose qu'on écoute une illustration de ce concept-là avec le film Le Cercle des Poètes Disparus et puis le texte d'Emerson lui-même, et puis vous nous expliquerez le tout, Sandra Logier.
Gentlemen, have you noticed everyone started off with their own stride, their own pace? Mr. Pitts.
Vous avez peut-être remarqué que chacun des trois est parti à sa propre allure, à son propre pas. Monsieur Pitts prenait son temps, pour lui, il n'y avait pas le feu. Monsieur Cameron, on le voyait penser. Vous, c'est comme ça, peut-être, peut-être pas. Si, c'était bien. Non, c'était pas bien, je sais pas.
Monsieur Overstreet, lui, poussé par une force virile.
On sait, ça suffit. Et soudain, ils ont tous marché au pas. Tout ça avait pour but d'illustrer le péril du conformisme et la difficulté de préserver vos convictions, quoi qu'en pensent les autres. Certains d'entre vous, je le lis dans leurs yeux, se disent « Moi, j'aurais marché différemment ». Mais alors, pourquoi ont-ils applaudi en mesure? Nous avons tous besoin d'être acceptés. Mais soyez persuadés que vos convictions sont uniques, les vôtres, même si on les trouve anormales ou impopulaires, même si le troupeau dit « C'est mal ». Robert Frost a dit « Deux routes s'offraient à moi, et là, j'ai suivi celle où on n'allait pas. Et j'ai compris toute la différence. Je veux que vous trouviez votre propre cadence, votre façon de marcher personnelle. Chacun pour soi, chacun où il veut, que ce soit fier ou que ce soit grotesque, ce qui vous chante. Messieurs, le pavé est à vous. »
Celui qui voudrait être un homme doit être non-conformiste. Celui qui voudrait cueillir des lauriers immortels ne doit pas en être empêché au nom de la bonté, mais doit rechercher s'il s'agit vraiment de bonté. Rien, en définitive, n'est sacré que l'intégrité de votre esprit. Donnez-vous l'absolution et vous recevrez les suffrages du monde. Aucune loi ne peut être sacrée à mes yeux si ce n'est celle de ma nature. Le bien et le mal ne sont que des noms que l'on peut facilement transposer. Seul est bon ce qui est conforme à ma nature, seul est mal ce qui va à son encontre. Confronté à n'importe quelle opposition, l'homme doit se comporter comme si tout, sauf lui-même, n'était qu'éphémère et attaché à un nom. J'ai honte lorsque je pense à la facilité avec laquelle nous capitulons devant les insignes, les noms, l'importance des sociétés et les institutions mortes. Tout individu convenable et s'exprimant bien me touche et m'émeut bien plus qu'il ne convient. Je devrais me redresser plein d'un élan vital et, en tous les cas, parler le langage cru de la vérité. La vérité est plus belle que l'amour fin. Il faut que votre bonté ait quelque tranchant, sinon elle n'est point. Il faut que la doctrine de la haine soit prêchée en contre-approche de la doctrine de l'amour lorsque cette dernière ne fait que piauler et geindre.
Sandra Logier, cet appel au non-conformisme pris au sérieux a quelque chose de vraiment radical. Hein. Il s'agit de tenir pour seule norme de son action sa propre nature et pas la société ni la morale.
C'est vraiment d'ailleurs une autre tonalité d'Emerson qu'on entend là dans ce passage de Self-Reliance, puisqu'il y a une forme de dureté, d'exigence très forte qui contraste avec le grand espoir hein, donc qu'il y a dans The American Scholar. Mais c'est vraiment le même principe, c'est-à-dire cette confiance en soi, et comme il le dit dans le même texte, la confiance en soi, c'est l'aversion, hein, le renversement de la conformité. Il y a vraiment un dualisme entre confiance en soi et conformisme, et la confiance en soi, c'est vraiment trouver sa propre voie, ne pas se soucier de la vie des autres, et donc c'est aussi toujours vouloir avancer et être au meilleur de soi-même. Et donc quand on entend cette grande diatribe du professeur dans Le Cercle des Poètes Disparus, qui est un film magnifique pour faire comprendre et ressentir cette exigence perfectionniste, et c'est vrai que Robin Williams a vraiment joué un rôle très important pour populariser, rendre vivante en fait cette exigence-là. Et vous vous rappelez sûrement beaucoup d'entre nous, en tout cas, cette scène finale où finalement tous ces jeunes élèves vont
Attention,
monter...
spoiler.
Pardon.
Mais allez-y quand même. Le film de 90, quand même, on peut partir du principe que les gens
l'ont vu. Je suis contre le concept de spoiler, en plus.
Ah, très bien, vous nous direz pourquoi plus tard.
Et donc ces élèves vont tous monter sur leur table pour vraiment lui rendre hommage d'une certaine façon. Et c'est vraiment ce mouvement d'élévation au-dessus de soi qui définit la confiance en soi, mais aussi la seule manière possible d'avoir une vie démocratique.
Alors ça, c'est difficile à comprendre, puisque se faire confiance, tel que l'entend Emerson, la confiance en soi paraît être un geste proprement antidémocratique, alors, puisque c'est penser à soi avant de penser aux autres.
Ça paraît antidémocratique, ça paraît prétentieux et mégalomaniaque, ça a tous les défauts du monde, et c'est justement le génie d'Emerson, mais aussi le génie de cette conception de la démocratie qui se développe là, justement, dans cette époque-là, qui permet de mettre ensemble, en fait, cette exigence impersonnelle hein, d'arriver à progresser, mais qu'on va trouver dans des formes européennes aussi de perfectionnisme, hein. Et puis cette possibilité donc d'avoir une voie pour tous, hein, puisqu'il y a aussi une exigence très forte chez Emerson que chacun puisse avoir cette confiance en soi et la développer. Ce n'est pas quelque chose qui est réservé à certains qui auraient une qualité particulière, hein. C'est vraiment cette possibilité, et il le dit à de nombreuses reprises, pour chacun de trouver son propre génie. Et donc,
oui, il parle de génie, voilà, qui est présent en chacun d'entre nous.
Le génie présent, et donc mon génie m'appelle. Alors, ça a l'air ridicule, en même temps, pas du tout, puisque cela veut dire que cette capacité de perfectionnement qui est en tous, c'est elle, en tous et en toutes, d'ailleurs. Hein, c'est-à-dire que cette conception de la démocratie, elle n'est possible que si elle est réellement extensive, hein, et si elle est donc à la portée de tous les... De tous les citoyens, et c'est aussi pour cela, d'ailleurs, que Emerson s'est beaucoup battu contre l'esclavage en son temps, parce que c'est quelque chose qui est en tout être humain, et c'est cette capacité donc d'aller au-delà de soi-même qui va être ce qui est de plus partagé, et donc ce qui définit en fait la démocratie. Et donc la démocratie, ça n'est pas le conformisme et le fait que chacun va en effet suivre les autres de façon moutonnière, mais c'est justement cette capacité partagée à toujours chercher le meilleur. Et donc c'est cela qui permet de distinguer la démocratie du conformisme. Et on revient au débat, évidemment, autour de Tocqueville, mais des débats qu'on a très souvent aujourd'hui encore autour du populisme, par exemple. C'est-à-dire que le véritable peuple, le véritable populaire, c'est justement de voir en chacun cette possibilité d'atteindre le meilleur.
I told you we'd have trouble with this.
Yeah.
In a half an hour, we'll no longer be Mr. and Mrs. Funny, isn't it?
Yes, it's funny that everything's the way it is on account of the way you feel.
Huh?
Well, I mean, if you didn't feel the way you do, things wouldn't be the way they are, would they? I mean, things could be the same if things were different.
But, things are the way you made them.
Oh, no. No, things are the way you think I made them. I didn't make them that way at all. Things are just the same as they always were, only... You're the same as you were, too, so I guess things will never be the same again. Good night.
Good night. Got caught in the door.
Good night.
Good night.
You do what you can believe in.
On fait ce en quoi l'on croit. Et il se trouve que ce que l'on fait a une incidence, une répercussion. Alors, quel lien avec mon travail sur Emerson et Thoreau?
I'm still thinking about it.
Je continue à y réfléchir.
I'm in the middle of thinking about, I think it's
c'est
true
très important
that,
pour moi.
Of course, as I said, they are not strangers to
bien
American
sûr,
culture.
Je l'ai dit, ils ne sont pas What's étrangers à la culture américaine. Ce qui est étrange les concernant,
is that they should be taken seriously as philosophers,
c'est qu'il faudrait qu'on les prenne au sérieux
in the way
en tant que philosophes.
That Kant and Descartes
comme
and
on
Locke
prend
and
Kant
Hume
et
Nietzsche
Hume et Descartes et Nietzsche au sérieux.
Are philosophers.
Ce sont des philosophes.
But for me, it stamps, it gives a signature
mais pour
of what
moi,
philosophy can be.
C'est and vraiment
have, if,
l'image
if
et le timbre de ce que peut être
and you want to
participate la philosophie.
In this
c'est quelque chose à quoi on a
tradition, this,
envie de participer,
thought,
cette tradition, ce courant de pensée.
For as long as there's a Western culture for 2500
parce que
years,
depuis qu'il y a une culture occidentale,
what place you can to walk into it.
Depuis
now,
2500 ans, on choisit l'endroit où on veut s'y placer.
C'est à Stanley Cavell, au philosophe américain Stanley Cavell, que l'on doit d'avoir remis au goût du jour la pensée d'Emerson, y compris aux États-Unis, et d'avoir établi ce lien très troublant, je dois dire, mais très convaincant, entre l'appel à l'indépendance intellectuelle américaine d'Emerson en 1836, dont j'ai lu un extrait en début d'émission, et les comédies de remariage dont on vient d'entendre un extrait ici. C'était là un extrait de The Awful Truth, cette sacrée vérité de Léo McCarey, qui date de 1952 avec Cary Grant et Irene Dunne, 42 d'ailleurs. Puisque dans les deux cas, finalement, si on était attentif à ce que disait l'extrait, même si c'était en anglais, hein, il dit bien voilà, je ne peux pas connaître les choses, je ne peux que croire savoir ce qu'il en est. La croyance précède la connaissance. D'Emerson aux comédies de remariage, dans les deux cas, ce sont deux modalités du scepticisme qui, pour le coup, est une manière de définir ce geste philosophique américain initié par Emerson et perpétué par Cavell. Sandra Logier.
Alors, c'est vraiment ce qu'on entend dans le dialogue hein, de The Awful Truth, donc, avec Cary Grant et Irene Dunne. Et il y a vraiment, dans cette scène finale du film, où le couple va se retrouver à avoir cette conversation philosophique, il y a vraiment un échange sur la façon dont on peut se réapproprier, hein, retrouver un contact avec le réel à travers cette conversation, retrouver un contact avec le monde et avec le temps, hein, puisqu'on a aussi ce qu'on entendait, le petit ding-ding à la fin, c'est un petit coucou
qui sort de l'horloge.
Voilà, qui figure en fait à la fois ce passage du temps et la capacité du couple à retrouver une façon en fait d'habiter ce temps ensemble après avoir perdu ce contact avec le monde dans leur rupture et dans le scepticisme. Et donc ce qui paraît en effet assez extraordinaire, c'est cette façon dont cette question philosophique fondamentale du contact avec le monde, du doute, va être exprimée, développé dans des films de Hollywood qui étaient notamment quand Stanley Cavell a écrit son premier grand ouvrage donc sur les comédies du remariage, hein, donc à la recherche du bonheur, c'était au début des années 80 et c'est vrai que on n'avait pas à l'époque, alors c'est différent peut-être aux États-Unis et en France, mais on ne considérait pas ces films comme étant réellement philosophiquement importants. Hein, la pertinence philosophique de ces comédies, autant on pouvait considérer qu'un film de Dreyer, d'Eisenstein, pouvait avoir une pertinence philosophique, autant des comédies grand public, c'était quelque chose qui n'était pas du tout évident. Et de montrer que ce sont ces comédies hollywoodiennes qui reprennent en fait l'interrogation emersonienne sur cette façon, donc à la fois de se rapproprier la vie ordinaire hein, dans la conversation, dans la vie de tous les jours, et aussi la question de savoir comment, qu'est-ce que c'est qu'être un être humain de qualité, finalement capable en fait de porter ces enjeux philosophiques dans la conversation. C'est vraiment quelque chose qui demande une exigence extrêmement forte par rapport au cinéma. Hein. C'est vrai qu'il y a vraiment là une reconnaissance de la capacité du cinéma, mais en tant qu'il est grand public et qu'il s'adresse à
tous. Ça, c'est très important.
Et on revient.
Hein, c'est là, pour le coup, c'est la position proprement anti-snob de Cavell. Hein.
Complètement anti-snob, puisque c'est vrai que ce qu'il raconte, c'est que, par exemple, quand il a commencé dans des conférences, des colloques en philosophie, à faire, par exemple, une conférence sur la déduction transcendantale de Kant et New York, Miami, donc « It happened one night », une des comédies du remariage, où là, comme dans le petit dialogue qu'on vient d'entendre entre le même et l'autre, les discussions platoniciennes, cette discussion entre Cary Grant et Ayn Rand, en fait, ce qu'il dit et en quoi c'est radical, hein, c'est d'une part ce qu'il va expliquer, c'est que ces films vont avoir une portée philosophique, une force philosophique égale à celle des plus grandes œuvres de philosophie. Donc c'est pas seulement de dire « Ah, c'est vachement intéressant pour nous philosophes parce que on arrive à voir quand même la dimension philosophique ». C'est pas du tout ça. Ces films ont un propos philosophique, ont une intelligence apportée à leur propre réalisation. Et c'est cela qui permet à Cavell de montrer donc cette force philosophique du cinéma. Ensuite, c'est vrai qu'il s'agit de cinéma grand public, l'équivalent de ce qui m'intéresse aussi beaucoup aussi, des grosses comédies maintenant pour adolescents de Judd Apatow.
Voilà, hein, mais l'intérêt du travail de Cavell, c'est d'avoir montré que ces comédies sont à prendre au sérieux et pas simplement par plaisir, par provocation, disons, de ceux qui ne sont les défenseurs acharnés du néo-réalisme et des films muets en noir et blanc, mais pour
ce qui
montrer
est bien
que.
Aussi, hein.
Tout à fait, justement, il ne faut pas reconduire le snobisme à l'envers.
Oui,
le but n'est pas de dire du bien des grosses comédies, comme vous dites, pour dire du mal des films qui ne sont pas des comédies. Au contraire, c'est de montrer en quel sens un film est toujours le révélateur d'une culture, qu'il dit quelque chose de cette culture. Et en l'occurrence, dans les comédies de remariage, Cavell montre que c'est la pensée emersonienne et donc le fondement de la philosophie américaine qui est à l'œuvre. Et dans son film sur les comédies de remariage, il le démontre. Et c'est absolument stupéfiant de voir comment les textes d'Emerson sont présents dans les comédies de remariage hollywoodiennes des années 40.
Alors on retrouve des citations d'Emerson tout entière dans ses films. On retrouve des passages de Thoreau. Et même dans beaucoup de films actuels de comédies ou même de séries télévisées, vous allez retrouver en fait des échos d'Emerson. Et c'est vrai que c'est pas du snob à l'envers non plus. Hein. Je crois que l'intérêt de la conception du cinéma qu'on a à partir de Cavell, c'est aussi l'importance de l'éclectisme incroyable en fait de la cinéphilie. C'est-à-dire que quand on aime le cinéma, pour lui, on aime aussi bien les grands films classiques que des choses qui peuvent paraître plus anodines, mais qui vont compter pour vous. Et c'est ça aussi l'intérêt démocratique de ce rapport au cinéma, c'est le fait que ce qui va faire la valeur d'un film, ça va pas être des grands critères esthétiques ou sociaux ou même culturels, mais ça va être la façon dont ce film va s'inscrire dans votre expérience, va compter.
Le terme clé étant celui d'expérience, qui est le titre d'un texte d'Emerson, et l'expérience est précisément ce que nous n'arrivons pas à faire. Et c'est en cela qu'on peut parler du scepticisme emersonien.
Oui, et c'est la façon aussi dont Cavell, dans son travail sur le cinéma, et là c'est pas seulement dans son livre sur les comédies du remariage ou son livre sur le mélodrame, mais aussi sur son premier livre sur le cinéma, La projection du monde, qui est sur l'expérience, l'ontologie du cinéma, et où il montre que l'expérience cinématographique en tant que telle a un rapport structurel au scepticisme, puisqu'elle vous permet de vous réapproprier le monde en vous montrant un univers où vous n'êtes pas présent, mais dans lequel, en fait, vous pouvez avoir une expérience.
Et à l'inverse, oui, c'est ce qu'il montre. Il dit, voilà, ce film-là qui est projeté sur un écran, je n'en fais pas partie, mais qu'est-ce qui me prouve que le monde qui est le mien, dans lequel j'entre une fois que je quitte la salle de cinéma, eh bien, j'en fais davantage partie. C'est ça, le scepticisme de Cavell.
Oui, et l'expérience cinématographique vous donne le pouvoir individuel, cette capacité, justement, à retrouver ce monde, et à vous le réapproprier. Et également, l'expérience du cinéma donne une sorte de force à chacun en constituant son propre goût cinématographique, en répétant en fait des expériences sur des films qui peuvent se ressembler, permet à chacun aussi d'avoir une compétence. Et ça, c'est un domaine finalement, le cinéma, qui est un des seuls où le sujet individuel, justement, peut avoir en fait sa confiance en soi pour son propre goût, ses propres capacités d'expérience et d'analyse.
Encore faut-il avoir le courage de se poser la question de l'importance que représente pour nous le cinéma.
Les gens ne se posent pas cette question. Pourquoi les films sont-ils importants?
Et
plus encore,
as if it is not important.
Il traite le cinéma comme
so
n'étant pas important, comme si c'était un objet de consommation à utiliser en deux heures et quelque chose à quoi on ne réfléchit pas. Les critiques de films dans les journaux sont simplistes, on en traite comme de tout, de rien, comme si il y avait quelque chose de tellement mystérieux, de tellement dangereux et menaçant dans le cinéma que l'on ne se donne pas le droit d'y penser. Il faut simplement le prendre pour acquis. Si on commençait à se dire qu'en deux heures, quelqu'un réussit à vous faire rire, pleurer, réfléchir, etc., c'est assez terrifiant.
Heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek when we're out together dancing cheek to cheek. Heaven, I'm in heaven, and the cares that hung around me through the week seem to vanish like a gambler's lucky streak when we're out together dancing cheek to cheek.
Vous écoutez France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance, il est 10h32 et vous écoutez Fred Astaire, une chanson qu'affectionne particulièrement Stanley Cavell, le philosophe dont on parle aujourd'hui. D'Emerson à Stanley Cavell, la naissance de la philosophie américaine, c'est le sujet de cette émission que j'ai le grand plaisir de faire avec Sandra Logier, professeure de philosophie à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, à qui l'on doit beaucoup d'ouvrages consacrés à Stanley Cavell et aussi à Emerson. Et en ce qui concerne l'émission du jour, j'ai plaisir à citer celui-ci, Stanley Cavell, qu'est-ce que la philosophie américaine qu'on trouve en Folio Essai.
The charm about you will carry me through to heaven. I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek when we're out together dancing cheek to cheek.
I suppose you'll still be attracted to any man of spirit, though. There's something engaging about it, this goddess business. Something more challenging to the male than the more obvious charms.
Really?
Really. We're very vain, you know. This citadel can and shall be taken, and I'm the boy to do it.
You seem quite contemptuous of me all of a sudden.
No, Red. Not of you. Never of you. Red, you could be the finest woman on this earth. I'm contemptuous of something inside of you. You either can't help or make no attempt to. Your so-called strength, your prejudice against weakness, your blank intolerance.
Is that all?
That's the gist of it. Because you'll never be a first-class human being or a first-class woman until you've learned to have some regard for human frailty. It's a pity your own foot can't slip a little sometime. But your sense of inner divinity wouldn't allow that. This goddess must and shall remain intact. There are more of you than people realize. A special class of the American female, the married maidens.
So help me, Dexter. If you say another word,
I'm through, Red. For the moment, I've had my say.
l'extrait de Philadelphia Story, Indiscrétion en français, que l'on vient d'entendre, Sandra Logier, de George Cukor, 1940, qui donne à entendre une discussion entre Catherine Hepburn et Cary Grant. Excusez du peu, c'est un régal à regarder encore aujourd'hui. Je défie quiconque ne l'a pas encore vu de ne pas aimer ce film au premier visionnage. Vous me direz, eh bien, illustre à merveille ce qu'on appelle le perfectionnisme moral, dans lequel Emerson s'inscrit parfaitement, avec notamment cette phrase. Donc, les deux personnages étaient mariés au début du film, ils sont séparés, la femme s'apprête à se remarier avec quelqu'un d'autre, et le personnage de Cary Grant, C.K. Dexter Heaven, lui fait une espèce de tirade où il s'en prend à son rapport au monde et à ce qu'elle prétend être. Il lui dit « Tu ne seras jamais la statue que tu prétends être. Cette quête vers la perfection te ronge littéralement puisque tu ne pourras pas être parfaite tant que tu mépriseras la faiblesse humaine. » Et là, il semble y avoir un paradoxe avec le texte d'Emerson qu'on a entendu avant qui disait « Il faut que la doctrine de la haine soit prêchée si celle de l'amour ne fait que pioler et geindre. » Alors, où se situe la morale dans ce qu'on appelle le perfectionnisme moral, Sandra Logier ?
C'est vrai qu'on a là un dialogue très caractéristique de ces comédies et que Philadelphia Story, vous le disiez, c'est vraiment la comédie du remariage emblématique par excellence, puisque on a vraiment ce schéma de la séparation au début et des retrouvailles à la fin, avec tout ce parcours assez difficile, et on l'entend là, même si c'est bref, assez dur, hein, puisque ce sont des mots très durs, justement. Mmh. Hein, ça n'est pas seulement de l'amour, mais c'est également aussi une forme de dureté et d'exigence qui est exprimée là par Cary Grant, avec cette idée qu'il faut arriver à être, comme il dit, a first class human being. Alors là, on peut se dire, mais c'est quelque chose peut-être d'un peu déplaisant que cette dimension un petit peu sociale méprisante du perfectionnisme. Et là, pas du tout, puisque ce qu'exprime Cary Grant là, C.K. Dexter Heaven à Tracy, c'est l'idée que pour être réellement cet être humain de première classe, il faut accepter sa propre vulnérabilité, accepter ses faiblesses, et il faut aussi arriver à reconnaître en fait ce qui est réellement important. Hein. C'est ce qu'il y a dans ce dialogue. Hein. Il va lui rappeler un moment de leur vie de couple qu'elle a elle-même refoulé, où justement elle s'était finalement s'est départie de sa grande dignité et elle s'était saoulée, montée toute nue sur le toit, etc. Et elle va dire mais cet incident est ridicule, et il va lui dire mais non, c'est extrêmement important. Et donc quand il dit que justement Tracy ne devrait pas se marier avec son futur nouveau fiancé parce que justement c'est un être vulgaire et sans intérêt, il ne va pas affirmer là un mépris social, même si ça pourrait y ressembler, ça y ressemble un peu, mais au contraire l'exigence en fait de ce que ce serait qu'une véritable aristocratie morale.
Et là donc, ça fait penser à Nietzsche quand même, à la définition que Nietzsche propose du surhomme.
Alors c'est certain qu'il y a eu une cette influence très très forte.
Nietzsche a lu Emerson d'ailleurs.
Sur Nietzsche, hein, c'est extrêmement présent chez Nietzsche, et il y a en effet cette dimension-là qui peut être entendue dans cette exigence par rapport à soi, et justement qui doit être aussi intégrée à cette réflexion globale sur ce que c'est que la société américaine et cette possibilité réellement démocratique. Hein. D'ailleurs, dans la discussion, ce que dit donc C.K. Dexter Heaven, c'est que c'est cette capacité justement être un être humain, elle est partagée par tous, par les gens autour de lui, son jardinier, etc. Donc ça n'est pas de l'élitisme, hein, c'est un perfectionnisme, mais qui n'est pas un élitisme puisque c'est une sorte d'exigence qui est propre à l'humain ordinaire. Et c'est pour ça que seul le cinéma peut exprimer ça dans sa façon de mettre en scène. C'est vrai qu'on n'entend que des dialogues là quand on écoute justement ces scènes, mais ce qu'elles mettent en scène aussi, c'est cette corporéité des personnes et leur l'expressivité morale, physique, hein, dans la façon d'être de l'humain ordinaire.
Mais justement, je crois... vous parlez de l'humain ordinaire, oui. Ce thème est clé chez Cavell, mais aussi chez Emerson. On l'a vu en début d'émission, quand Emerson appelle les étudiants d'Harvard à se défaire de l'influence européenne, il leur dit « Intéressez-vous à l'ordinaire », c'est-à-dire à ce qu'il y a devant vos yeux, ce que vous considérez comme étant bas, trivial et familier. C'est là que nous pourrons fonder une nouvelle philosophie. Et pourtant, puisqu'on parle de cinéma, le cinéma américain semble être obsédé par l'extraordinaire et les super-héros. Donc comment est-ce qu'on comprend cette concomitance entre l'ordinaire le plus fort et l'extraordinaire qui devient banal tellement, en fait, il est mobilisé par la culture américaine.
Je crois que c'est vraiment une question très, très centrale pour définir ce que c'est que le cinéma populaire, en fait. Parce que s'il y a d'ordinaire dans le cinéma, c'est vrai que c'est pas forcément l'histoire racontée. D'ailleurs, on a beaucoup reproché à Cavell de s'intéresser à ces comédies où on trouve quand même que des gens de la haute société, finalement. Ça n'est pas forcément des gens, des citoyens américains basiques qu'on va trouver dans ces comédies. Mais il y a vraiment, dans la représentation de ces personnes, ce questionnement sur ce que c'est, en fait, que l'union, hein, l'état de l'union, justement, au sens politique et du couple. Et qu'est-ce que c'est, en fait, que faire une société. Et donc, on montre... justement au cinéma aussi toujours des super-héros, ça va être toujours aussi pour montrer des êtres humains. D'ailleurs, si vous regardez X-Men, des choses comme ça, c'est toujours des personnes, on va toujours montrer une sorte de fragilité de leur personnalité, le caractère en fait vulnérable du super-héros, c'est le thème quand même central des films de super-héros. Et par ailleurs, on a beaucoup au cinéma et aussi d'ailleurs dans les séries télévisées qui lui ont peut-être succédé dans le rôle un peu de représentation, de rapport un peu à l'ordinaire, on trouve aussi justement cette présence des humains ordinaires de la vie quotidienne. Je crois que c'est vraiment quelque chose qui est très essentiel au cinéma et je crois que ce qui aussi importe vraiment à Cavell, c'est cette façon pour le cinéma et pour d'autres, d'ailleurs pour d'autres médias, d'être accessible à chacun.
Mais qu'en est-il de la philosophie, Sandra Logier, puisqu'on est quand même parti de la question sur s'il y avait une philosophie proprement américaine. On a entendu les efforts d'Emerson et de Cavell pour définir celle-ci. Et là, on en vient à parler de cinéma, finalement. Est-ce que ça veut dire que ce qui caractérise la culture américaine, à savoir cette importance accordée à l'ordinaire et donc à l'extraordinaire, finalement s'exprime mieux au cinéma qu'en philosophie?
Alors, il est possible que Cavell puisse aller jusque-là et dire que la pensée, la véritable pensée philosophique, enfin véritable, pas de véritable, en tout cas, il y a une pensée du cinéma. D'ailleurs, il y a un de ses essais qui s'appelle comme ça. Donc, le cinéma a sa propre portée philosophique. Et si l'Amérique doit s'inventer, en fait, une tradition philosophique, puisque... Sinon, sa tradition serait héritée de l'Europe, comme on le voyait avec The American Scholar. Eh bien, cette tradition, elle peut se trouver que chez des penseurs comme Emerson et Thoreau, chez des grands auteurs de la littérature et de la poésie qui jouent un rôle absolument central aussi dans la culture américaine, et le cinéma hollywoodien, qui, tout en étant un peu pris pas complètement au sérieux, que ce soit en Amérique ou parfois en Europe, est en réalité une œuvre de pensée en tant que telle, et peut-être beaucoup plus présente d'ailleurs dans l'expérience ordinaire de toutes les personnes que beaucoup d'auteurs philosophiques.
Mais est-ce que ça veut dire du coup qu'en tant que philosophe américain, il faudrait rendre les armes et dire bon, finalement le cinéma exprime mieux que ce que nous pouvons essayer de faire le rapport de la culture américaine à l'ordinaire? Parce que Cavell s'est attelé à cette question, il a écrit de nombreux ouvrages sur la question, il peine toujours à définir ce qu'est l'ordinaire.
Il essaye malgré tout de définir l'ordinaire à travers Emerson dans Experience que vous citiez tout à l'heure, qui vraiment essaye de donner une liste des grandes catégories de l'ordinaire, de donner une description en fait de qu'est-ce que c'est que la vie ordinaire, comment on veut l'approcher, comment on peut l'approcher. Et le cinéma est aussi un mode en fait d'approche de cette réalité ordinaire qui est insaisissable, d'où le scepticisme, et qu'on va se réapproprier. Et donc pour Cavell, en effet, et je crois qu'il faut vraiment le prendre au sérieux lorsqu'il va jusqu'à dire que le cinéma est en effet une forme de rival de la philosophie que propose l'Amérique pour repenser ou s'approprier le monde et en fait un mode d'appropriation qui est peut-être aussi plus aisément partageable, commun, que les discours philosophiques. En même temps, il faut bien quand même se rappeler que Cavell est un philosophe, qu'il a écrit un très grand nombre d'ouvrages de philosophie et que pour lui, en fait, la philosophie est aussi une façon de faire de la philosophie. Et c'est aussi comme ça que je pense, j'étais moi-même attirée vers ce style de philosophie. Faire la philosophie, c'est aussi une façon d'essayer d'avoir le même type d'expérience. Vous savez, souvent, Cavell dit, on lui demande comment ça se fait qu'un grand professeur de philosophie à Harvard s'est intéressé au cinéma. Et il répond, d'ailleurs dans un entretien dont on a entendu un morceau tout à l'heure.
Les Avoies Nues qu'il accordait à Philippe Petit en 2008.
Oui. Ouais. Oui, oui. Il va dire, mais la question, c'est plutôt de savoir comment quelqu'un, et on est souvent, c'est notre cas, un certain nombre d'entre nous, comment quelqu'un qui a grandi en allant au cinéma, dont l'expérience est modelée par ça, a pu finalement se tourner vers la philosophie comme façon, en fait, de penser cette expérience et de retrouver quelque chose d'équivalent et d'aussi fort. Et donc, c'est une conception de la philosophie qui est une vraie philosophie de l'ordinaire, qui est très singulière en réalité.
Qui n'est ni continentale, ni analytique, et qui rend l'écriture parfois assez difficile. Hein, quand on s'initie à la pensée de Cavell, on a du mal parfois à pénétrer tellement le style est surprenant.
C'est un style très, très singulier, et d'emblée, Cavell a une place quand même un peu à part dans la philosophie américaine. Hein, il a commencé dans les années 60, puisqu'il avait cette façon d'aborder les choses qui en fait n'était pas dans le schéma de la philosophie analytique en tant que telle, tout en utilisant des auteurs vraiment centraux de la tradition analytique comme Wittgenstein et Austin. Donc l'attention au langage, au langage ordinaire, c'est quelque chose qui est aussi extrêmement central pour cette philosophie. Mais il a aussi, d'emblée, été considéré comme un effet assez singulier à cause de cette façon extrêmement personnel de considérer en fait qu'il y a une sorte de ton de voix personnel qu'on peut avoir en philosophie. Et donc oui, il est assez unique, hein, que ce soit pour sa voix, sa façon d'écrire, ses objets et sa façon aussi de prendre totalement au sérieux philosophiquement des objets de la culture comme le cinéma ou la poésie.
Je dois m'en aller, je n'ai plus qu'à jeter mes clés, car elle m'attend depuis que je suis né. L'Amérique, j'abandonne sur mon chemin tant de choses que j'aimais bien. Cela commence par un peu de chagrin. L'Amérique, 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 je veux la voir et je l'aurai. L'Amérique, l'Amérique, si c'est un rêve, je le saurai. Tous les sifflets de train, toutes les sirènes de bateau vont chanter 100 fois la chanson de l'Eldorado, de l'Amérique. Les amis, je vous dis adieu, je devrais vous pleurer un peu.
Un grand merci à vous, Sandra Logier, d'être venue nous parler d'Emerson, de Cavell aujourd'hui. Lisez l'un et l'autre, chers auditeurs. Vraiment, vous ne serez pas déçus. Les essais de Ralph Waldo Emerson, on les trouve notamment chez Michel Oudiard, éditeur. Cavell, on le trouve chez beaucoup d'éditeurs. J'ai sous les yeux Qu'est-ce que la philosophie américaine, que vous avez co-traduit, Sandra Logier, qu'on trouve en folio essai, mais aussi Une autre pensée politique américaine, La démocratie radicale d'Emerson à Stanley Cavell, qu'on trouve toujours chez Michel Oudiard, éditeur, et on mettra en ligne sur la page des Nouveaux Chemins tous les ouvrages dont nous vous recommandons la lecture. Pour l'heure, vous écoutez France Culture, le nouveau chemin de la connaissance. Il est 10h48. C'est l'heure de retrouver, comme tous les jours, les 2 minutes papillon de notre chère Géraldine Mosna-Savoie. Bonjour Géraldine.
Bonjour chère Adèle et bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la peine de mort en philosophie. C'est un ouvrage de Benoît Basse. Il se demande quel fondement pour l'abolition et c'est paru aux éditions de l'Armaton.
Mesdames, messieurs les députés, j'ai l'honneur, au nom du gouvernement de la République, de demander à l'Assemblée nationale l'abolition de la peine de mort en France.
À l'appel du président Erdogan, ses partisans continuent de célébrer l'échec du coup d'État. Et l'heure est à la vengeance. Qu'ils soient ouvriers, ingénieurs ou chefs d'entreprise, ils réclament le rétablissement de la peine de mort pour les putschistes.
J'ai vu des gens se faire massacrer, écrasés par les tanks. La punition pour les putschistes doit être la plus grave possible. Ça ne peut pas être autrement.
Le 9 octobre 1981, Robert Badinter parvenait à abolir la peine de mort. À ce moment-là, il y a 35 ans donc, les États abolitionnistes constituaient une minorité. Et si aujourd'hui la tendance est inversée, il reste encore une soixantaine de pays qui appliquent cette peine. Des sondages récents révèlent que 52% des Français y seraient encore favorables. Et le cas très récent de la Turquie montre comment la peine de mort peut encore être plébiscitée. Alors, qu'a-t-il donc bien pu se passer en 35 ans ? Comment comprendre un tel écart entre la loi et les mœurs? Comment accepter que la loi ne parvienne pas à modifier les mentalités et même peut-être à établir des frontières infranchissables? En fait, on pourrait très bien retourner la question et se demander de quel droit, le droit justement, aurait-il le pouvoir de transformer nos manières de penser, de juger, d'agir? Jusqu'où en fait le droit pourrait-il fonder ou récuser ce que l'on pense, ce que l'on croit, sans quoi l'on est convaincu et même intimement convaincu? En quoi pourrait-il dire ce que l'on peut justifier soi-même par ses propres mots et ses propres arguments et même ses propres affections? Car même plus qu'une question de raison et de raisonnement, la peine de mort a le pouvoir de s'appuyer sur les arguments du cœur. Dans son essai qu'il consacre à la peine de mort, Benoît Basse révèle ainsi toute la production théorique des ressentiments les plus enracinés et même chez les philosophes. Des justifications de la peine de mort selon John Locke à l'abolitionniste Beccaria, voilà donc ce que révèle la peine de mort, le pouvoir rationnel et logique du sentiment, sa capacité à rendre légitime ou illégitime une telle peine, d'où cette question maintenant, et si finalement ce n'était donc pas nos sentiments et nos mœurs qui dictaient la loi.
Merci Géraldine, rappelez-nous le titre du livre.
De la peine de mort en philosophie, c'est de Benoît Basse, c'est aux éditions de l'Armaton.
Merci beaucoup Géraldine, les nouveaux chemins touchent à leur fin. Pas d'inquiétude, on se retrouve demain pour la suite de cette semaine consacrée aux États-Unis d'Amérique vue par la philosophie. Et demain, ce sera l'émission très attendue à en juger de vos réactions, chers auditeurs, sur les réseaux sociaux. Une émission consacrée à la French Theory, comment expliquer ce succès ? Peut-être est-il relatif dans les universités américaines. Et ce sera François Doss qui viendra nous en parler.